Espace 2.
Lorsqu'un psychiatre, psychanalyste et une théologienne se retrouvent autour d'un domaine aussi méconnu que la perversion narcissique, tout un tas de questions se posent, notamment celle du mal. Michel Cocher au micro, Jean-Claude Gaillet en régie, vous souhaite à tous et à toutes bienvenue dans cette édition du magazine À Vue d'Esprit.
À Vue d'Esprit.
Bécher, bonjour.
Bonjour.
Alors, autour de votre table, Anne Bécher, se retrouve Lita Basset, professeure de théologie, écrivain, ainsi que Maurice Urny, psychiatre et psychanalyste, pour une conversation que vous allez mener, ou continuer d'ailleurs, toute cette semaine, continuer à bâton rompu autour du mal.
Oui, le mal qui est une composante centrale dans la perversion narcissique. En deux mots quand même par rapport à la perversion narcissique.
Repréciser ce que c'est.
On rappelle simplement qu'il y a, j'allais dire, un fond au cœur de ces humains qui est ou psychotique ou psychopathe selon les degrés de gravité.
Donc, des gens malades qui souffrent énormément.
Exactement, d'une angoisse et d'une souffrance indicible, tellement indicible qu'elle est encloisonnée tout au fond de ces personnes-là qui ont recréé autour d'elles une espèce de... jusqu'à la personnalité multiple, des fois on dit, hein, il y a deux paradoxales, une espèce de déguisement qu'on appelle un artifexe, et c'est de là, de cet artifexe-là, de ce déguisement, que vient le mot narcissique. Ce sont des personnalités également mégalomanes en général.
Des gens qui souffrent et qui font souffrir leur entourage, d'où la question du mal que vous posez au fond dans cette édition d'Abus d'Esprit.
Des personnes qui souffrent mais qui expulsent leur souffrance sur les autres. Maurice Urny, Lita Basset, nous allons entamer donc le deuxième jour de cette série consacrée à votre rencontre, à notre rencontre autour de la perversion narcissique. Et on va parler d'un point central, c'est le mal. Le mal qui semble une composante centrale, mal subi, mais aussi mal qui a besoin de se répandre, détruire le beau, le bon, le vivant dont ils ont été privés eux-mêmes. Une ancienne victime donc, qui a besoin de se venger en quelque sorte, par jalousie, détruire ceux qui n'ont pas subi le même sort, rétablir une justice d'une certaine manière. Ça m'est arrivé à moi, c'est insupportable que ce ne soit pas arrivé aux autres. Le mal par la corruption, le mal par le déni de l'humanité, de l'autre qui n'est qu'un objet, le mal par la destruction des liens, le mal par une violence souterraine indicible, le mal par le plaisir masochique ou autodestructeur, mais aussi sadique, le mal par le mensonge, la manipulation, mais aussi le mal dans un certain appauvrissement intellectuel qui se contente de puzzler, d'amalgamer des données de manière délirante, parfois jusqu'en des affirmations qui excluent le doute. Alors là, j'ai envie de me tourner tout de suite vers vous, Lita Basset, pour commencer. Le contraire du mal, dites-vous, n'est pas le bien, comme si ça existait comme deux polarités, comme ça, qui se baladent un peu en nous ou dans la nature ou je ne sais pas où, mais le sens. La quête de sens, justement, suppose... on va dire une démarche intellectuelle qui est basée aussi, qui est sous-tendue, j'allais dire, de l'émotionnel, de l'affectif. Un mot a un sens parce qu'il a un écho en nous. C'est fait de questionnement. Or, le doute est à la base d'une question. On va faire du pile-poule un peu là, mais à la base d'une question qui amène à un autre doute, qui amène à une hypothèse. À la base des hypothèses, il y a des questions, il y a des doutes. Et c'est ça, une quête de sens. Ce serait même la matière première de la curiosité. Alors, comment des êtres dépourvus de doutes, forts de leurs convictions, même les plus délirantes, même dans le déni, peuvent-ils avoir accès à cette démarche? J'allais dire, on ne raisonne pas un psychotique.
Non, mais je ne pense pas que je comprends la quête de sens de cette manière-là. C'est la quête de sens dans beaucoup plus dans une signification existentielle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait sens pour moi? Et au fond, vous avez parlé de puzzle, là, juste maintenant. Je crois qu'on est on a affaire à des personnes dont la vie a volé en éclats et qui sont devant des puzzles. Et précisément, ça n'a pas de sens. Et tout ce que vous avez décrit au début, le mal par la corruption, le mal par ceci, par cela, c'est ce qui ressort de toute cette description, c'est l'absurde.
Absolument.
C'est que ça n'a pas de sens. Et absurde veut dire ce qui ne s'entend pas.
C'est insensé.
Il y a surdité, on ne l'entend pas, on ne peut plus entendre ce qui aurait du sens, justement. Le sens a volé en éclats. Ça ne fait pas une unité. Et donc, peut-être que se focaliser sur faire mal aux autres et pratiquer ce que vous avez évoqué juste maintenant est une terrible et inefficace, mais quand même dans un premier temps efficace manière de donner un sens. parce que au moins, si, au moins, je fais de ma vie quelque chose qui a une certaine cohérence de cette manière-là. Mais bon, je marche sur la pointe des pieds parce que c'est quand même pas mon domaine, monsieur Urny. Ah,
mais ça me parle tout à fait. Vous n'avez pas besoin de prendre ces précautions parce que, en tout cas, ce que vous dites correspond tout à fait à notre expérience, en tout cas la mienne, du point de vue clinique.
On ne raisonne pas une personne psychotique, docteur Urny. Lui dire, mais attendez, ce que vous faites, ça n'a pas de sens. Vous voulez une chose et vous dites le contraire. Vous faites une chose et vous dites le contraire.
Bon, on peut essayer, disons, peut-être en... ça ne sera peut-être pas très rempli de succès. Il y a beaucoup de gens, je pense, c'est le psychanalyste qui a dit le mal et sans pourquoi. Et puis, il y a cette fameuse répartie, sauf erreur, c'est un Primo Levi, ou je ne sais pas, dans la situation d'Auschwitz, où here is kein warum, il n'y a pas d'explication ici. Et donc, on pourrait imaginer une sorte de mal absolu, qui serait une sorte de chaos absolu, d'incohérence, de non-sens total. Et dans ce sens-là, on rejoindrait un peu cette idée d'enfer que peuvent vivre certaines personnes ou certaines sociétés. Je crois qu'il ne faut pas hésiter là à faire des parallèles. Et je crois que pour quelqu'un de sensé, j'allais dire, c'est insupportable cette anarchie ou cette violence destructrice à l'état brut, et que tout notre effort d'être humain, c'est une quête de sens. À quoi ça rime tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient? Pourquoi c'est là? Qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce que moi je me positionne par rapport à ceci? C'est le côté absurde, n'est-ce pas? Enfin, moi, ça m'évoquait cette blague africaine, mais qui a été reprise dans Sauf erreur, le troisième homme. Mais enfin, bref, c'est l'histoire du scorpion qui veut traverser la rivière et puis qui demande à la grenouille. Et la grenouille dit je sais bien, toi, je te connais. Pervers, tu vas
me piquer.
Tu vas me piquer, tu vas me tuer. Et le scorpion qui dit, mais raisonne un peu, c'est pas possible, si je te pique, on va couler les deux. Et la grenouille dit, tiens, j'y avais pas pensé, alors allons-y.
C'est logique.
Allons-y, mais oui. Et puis,
je veux bien te prendre sur mon dos, voilà, traversant la rivière.
Elle le fait, et au milieu de la rivière, elle sent une piqûre, elle dit, mais je comprends pas, tu m'avais pourtant dit. Et puis le scorpion dit, oui, voilà, enfin, à mon avis, la blague s'arrête là, il n'y a pas besoin d'une conclusion.
Mais enfin, c'est plus fort que lui.
Ça serait la conclusion, au fil, voilà, c'était plus fort que moi, j'ai pas pu... Mais au fond, voilà.
C'est mon caractère, c'est comme ça.
C'est l'absurdité totale.
Oui, mais
totale,
il se saborde là. Lui-même, hein, voilà, en même temps. Total. C'est ça qui est totalement pathétique.
Voilà, oh, il trouve une autre grenouille.
Non, il va couler.
Il va couler avec la grenouille.
Bien sûr. Donc il y a là une sorte de haine, comment dire, absurde. Ce n'est pas une colère, une agressivité saine, n'est-ce pas, qui dirait, là, je ne suis pas d'accord, je conteste votre point de vue. Ou bien,
c'est une rage, hein.
C'est la pure destructivité. Je crois que ça existe et qui est, évidemment, à la fois hétéro et autodestructrice. Ça va exactement dans les deux sens, comme toutes ces violences perverses. En réalité, elles se retournent toujours contre celui qui les aimait. Il y a cette illusion d'expulsion du mal ailleurs est une pure illusion.
Fantasme.
Oui, voilà, c'est pas réaliste du
maintenant,
tout.
Maintenant, quand même, il y a tous les degrés entre... Là, on décrivait le pire des cas.
Oui.
Mais
oui.
Disons, si on regarde toute cette énorme proportion de personnes qui ont des comportements pervers tout en n'étant pas dans cette situation radicale, je dirais, pour répondre à votre question sur est-ce qu'on ne raisonne pas une personne comme ça, je pense qu'on pourrait peut-être rejoindre une personne qui serait dans ce genre de dysfonctionnement, on pourrait peut-être la rejoindre à un autre niveau, justement, que l'argumentation. Et c'est là que je suis toujours impressionnée par le langage non-verbal. Quelque chose qui peut communiquer d'humain à humain, d'une manière assez mystérieuse. Je ne pourrais pas donner d'exemple comme ça tout de suite, mais vous voyez, dans cette direction-là. Non, la prière, ça n'empêche pas. Mais la manière d'être, peut-être un geste, peut-être un regard, on ne sait pas, mais à un autre niveau.
Maurice Urné. Bon, vous aviez un rôle bien défini, c'est celui du médecin, donc par rapport à ses patients.
Oui, alors vous faites bien de le préciser, parce que c'est vrai que c'est un, comment dire, un éclairage qui est vraiment différent de l'éclairage théologique. Et, par exemple, je ne sais pas qu'est-ce que vous penserez, parce que pour moi, j'aurais une proposition un peu provocante. C'est que si vous voulez rejoindre, pour autant que vous ayez cette drôle d'idée d'ailleurs, de rejoindre le pervers dans son humanité profonde, eh bien, ça serait justement par la méchanceté, c'est-à-dire en le reconnaissant méchant, et non pas en cherchant désespérément ou pas ce qu'il peut avoir de gentil, d'humain, etc. Mais au contraire, en le respectant en tant qu'être humain, mais dans sa méchanceté aussi.
Oui, mais le regard que je porterai sur lui à ce moment-là, d'ailleurs, ce n'est pas si théorique et abstrait que ça, hein, parce que j'ai des personnes très précises dans ma tête en vous disant ces choses, c'est un regard...
Non jugeant.
Oui, mais c'est un regard d'amour. C'est un regard de... Justement, c'est un regard qui est totalement lucide.
Voilà.
Et qui sait très bien que c'est un regard qui sait très bien qu'il va pas rejoindre là où il est lui dans son dysfonctionnement, mais c'est un regard pour rien, un regard pour la
dans la gratuité.
Oui,
alors.
C'est un regard de d'accueil gratuit de
si tant
est c'est
qu'il
quand
ne
même moi il est là, c'est un être humain et même si je peux pas, j'arrive pas à le rejoindre. Je vais peut-être d'autant plus avoir ce regard-là.
Si tant est qu'il ne surinterprète pas vos intentions.
Non, mais peu importe. Mm-hmm. Peu importe, parce que je dirais qu'il me vient d'ailleurs, ce regard-là. C'est pas... Justement, dans la mesure où je suis très lucide, je ne me fais aucune illusion. Et j'en ai certainement beaucoup bavé moi-même de ces comportements, éventuellement. Hein. Mm-hmm. Mais c'est, à ce moment-là, c'est un regard qui vient d'ailleurs. Dans le mystère de ce qu'il est, profondément.
Ça vous laisse dubitatif, Maurice Urné ?
Non, admiratif plutôt. Disons, moi, je me sens un peu le technicien dans cette affaire-là, c'est-à-dire plus le bricoleur, l'artisan qui va...
L'observateur.
Oui, et puis celui qui doit poser un diagnostic d'abord,
bien
en tant
sûr.
Que médecin, et un diagnostic sans complaisance.
Tout à fait.
Hein, il ne s'agit pas d'angéliser ou d'édulcorer les choses, ce qui serait vraiment, au contraire, ça je le souligne, parce qu'on me dit des fois, ah, mais tu es pessimiste.
Ah non, mais ça ne lui rendrait même pas service
mais
d'angéliser et d'édulcorer.
Voilà, qu'est-ce qu'on dirait d'un médecin qui verrait quelque chose de suspect d'être un cancer, et puis qui dirait, mais non, c'est simplement une foulure.
Absolument.
Ou prenez une aspirine et on va malheureusement peut-être aller dans ce sens-là avec la médecine de demain.
Parce que là, il s'agit de questions de vie et de mort en certaines situations.
Mais c'est pour ça que je crois que ce regard m'est bien sûr inspiré beaucoup par l'attitude de Jésus. Mais c'est un regard qui... C'est ça qui me frappe, c'est que à la fois c'est d'une lucidité, mais c'est d'une lumière aveuglante sur les tréfonds du tréfonds de la personne. Et en même temps, c'est un regard qui, en connaissance de cause, va plus loin.
Écoutez, moi, je me sens appelé là dans un domaine, encore une fois, qui n'est pas du tout le mien, mais vous exprimez les choses avec tellement de chaleur que peut-être je m'y sens autorisé. Qu'est-ce que vous pensez alors de l'intervention de Jésus lorsque il évoque la personne qui fait du mal aux enfants et qui dit celui-là, il vaudrait mieux qu'il ne soit pas né.
Ah oui, et c'est-à-dire malheureux, voyez comme c'est tordu tout de suite. C'est pas ça le texte.
Ah bon.
C'est malheureux, c'est même pas malheureux, c'est why. C'est une espèce d'onomatopée pour dire hélas, quelle horreur, quelle tristesse. L'être humain par qui ces choses-là arrivent,
voilà.
C'est-à-dire cette manière de faire tomber les plus petits,
voilà.
C'est-à-dire de les briser, de les détruire.
Bon.
Alors,
on est
en plein dans le sujet. Et là, Jésus dit, il convient, c'est-à-dire il vient avec, ça revient au même, que d'avoir une grosse meule soit accroché au cou, autour de son cou et qu'il soit submergé au fond de la mer. Ouais. Mais pour moi, le texte ne veut pas dire que c'est une punition. Le texte veut dire que quand quelqu'un détruit un être humain, particulièrement un enfant, un plus petit, ça ne l'avance à rien du tout. Il va se noyer au fond de l'abîme de la mer. La mer est symbolique du mal dans la Bible. Et ça revient au même pour lui que s'il il était submergé au fond de la mer. Non seulement il a détruit un enfant, détruit quelqu'un de plus vulnérable que lui, mais en plus, il s'est noyé lui-même en faisant cela. Quel malheur que ça, qu'on continue à faire, à reproduire sur d'autres ce que soi-même on a subi.
On n'a pas cassé la chaîne de la violence.
Ouais, c'est ça.
Quel malheur à celui qui est au bout de cette chaîne de violence qui se reproduit
et qui,
de l'un à l'autre.
Et surtout, quel malheur pour celui par qui ça continue.
Oui, c'est ça.
Et c'est là qu'intervient toute la responsabilité dont on parlait au début. C'est la fameuse liberté de choix.
Le libre
arbitre,
ouais.
Quelle que soit la gravité des choses que tu as subies, y a un moyen à trouver pour ne pas le faire subir à d'autres. Mmh. Et ça, c'est dit très, très clairement. Hein.
Lita Basset, pardon.
Alors, excusez-moi, parce que là, vraiment, ça me semble important. On a évoqué, vraiment, on se sent appelé toujours à ce sujet qui est la guérison, la sortie du malheur. On voit que là...
On n'aime pas y rester, hein, dans ce sujet. On a tout de suite envie d'en guérir.
Sortir.
Allons-y, Mauricio.
Et c'est vrai qu'on parlait de la difficulté pour un pervers de se remettre en question. Il n'a pas les outils, donc il va passer par les autres, etc.
L'un d'eux m'a dit, si je rentre là-dedans, je me pends.
Oh, voilà.
C'est vous dire la peur qui a rentré dans cet enfer-là.
Oui, ouais. Et puis on retrouve la mort dont vous avez cité, là, monsieur Maurice Bellet. Mais enfin, pour dire, il y a une faille quand même dans cette... présentation, disons, du mal et de la perversion, dans mon expérience, c'est justement l'idée de ne pas reproduire ça sur les enfants.
Oui.
Disons, pour eux-mêmes, il y a très peu de possibilités. Dans le couple, là, on peut en discuter. Il y a souvent une sorte de jeu de miroir où on utilise l'autre pour se soigner, etc. Enfin, c'est assez ambigu. Mais pour les enfants, ça parle même à des pervers, alors tout à fait... gravement déclaré, étiqueté, certifié, eh bien là, souvent, c'est quelque chose qui les arrête. Ils se rendent compte qu'ils risquent là de reproduire ça.
Ça, c'est fort, parce qu'il y a une sacrée convergence avec ce qu'on disait du texte biblique tout à l'heure.
Voilà.
Parce que là, à ce moment-là, il est dans nos mains, et c'est dans nos mains de mettre un arrêt, une butée à cette reproduction sans fin des traumatismes.
Pour nommer les choses, par exemple l'inceste, cependant, on sait, bon, même s'il n'y a pas de passage à l'acte incestueux, il y a ce que vous évoquez, comme, et notamment M. Racamier, qui est un autre médecin qui a donc étudié la perversion narcissique, qui évoque l'incestualité, ces ambiances un peu, j'allais dire, qui vampirisent un peu les enfants, des ambiances un peu incestuelles et qui font du mal aux enfants, que les enfants ressentent, puisqu'on dit que les enfants sont des éponges.
Oh, ils n'ont même pas besoin d'être des éponges, je crois que les malheureux, ils sont souvent des otages là-dedans. Alors là, c'est un sujet très important et très délicat. Vous parlez de l'incestualité, qui est en effet un concept que Racamier a forgé et que d'ailleurs j'ai contribué aussi à... c'est moi qui parlais le premier d'incestualité. Et Racamier avait cette formule lapidaire qui disait, dans les familles incestuelles, le tabou de l'inceste est remplacé par le tabou de la pensée. C'est l'interdit de penser.
Oui.
Et alors là, on rejoint ce que vous disiez tout à l'heure à propos, qu'est-ce que c'est que le contraire du mal, c'est le sens. Et alors, moi, ça rejoint, moi j'aurais dit c'est la pensée.
Oui, c'est ça.
C'est la capacité d'utiliser son appareil psychique pour soi-même, mm-hmm. c'est-à-dire justement dans le sens d'une sorte de réflexion sur soi-même, mm-hmm. de
curiosité,
de curiosité, une
richesse,
exactement,
hein, pour trouver une cohérence.
En fait. Voilà, mm-hmm. enfin c'est tout le développement de l'être mm-hmm. humain et peut-être de sa spiritualité, mm-hmm. et puis aussi tout le plaisir, peut-être c'est pas par hasard que j'en parle, mais aussi de la discussion, hein, du dialogue, l'échange libre, etc. Alors ça, c'est non seulement c'est interdit, mais c'est tabou dans les familles. Il y a vraiment des secrets de famille. Il y a toutes sortes de raisons.
Interdit de penser.
Interdit de penser. Mmh. Alors là, c'est vraiment pathétique parce que je le vois tous les jours dans mes consultations. Oui. Ces patients qui se débattent, mais vraiment avec une énergie désespérée parfois, pour essayer de comprendre, d'associer certains problèmes. Ils disent, mais c'est curieux, chaque fois que je parle de ce sujet, il y a ma mère qui part en pleurant, et bon, grand frère qui fait semblant de regarder s'essouiller, mais je ne comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe, etc.
Alors qu'on a besoin de savoir pour intégrer son histoire, de comprendre, pour relire son histoire.
Mais l'enfant, il se noie dans des contradictions qui lui sautent au visage de son environnement et il cherche désespérément un sens.
Voilà.
Et ça rend fou quand c'est un...
Ah, mais du reste, quand les gens sont là, et souvent ils disent « mais je suis au bord de la folie, là ».
Oui, ce qui est le paradoxe, c'est que c'est en fait eux qui sont les plus sains.
Oui, exactement, exactement.
Le mal pour vous, Lita Basset, c'est à vous que je vais poser à la théologienne la question, puisqu'on évoque la spiritualité. Dans de nombreuses traditions, le mal, on va en parler quand même de ce diable qu'on peint à la muraille, le mal est identifié comme une entité extérieure. Alors on ne peut pas s'empêcher de rester dubitatif devant la pertinence d'une dualité permise par Dieu pour que l'homme ait accès à un libre arbitre. Or, les pervers narcissiques ne semblent pas jouir de leur libre arbitre. On y revient encore puisqu'ils se dédouanent de leurs propres actes, accusant les circonstances, Dieu, les autres, bref, des éléments extérieurs de ce qui leur arrive, ils se disent irresponsables, voire ils ne mesurent pas le mal qu'ils font. Alors d'abord, un mal extérieur ? Point d'interrogation ?
Bon, je m'excuse, je reviens toujours à la Bible. C'est un peu ma référence, mais c'est jamais une notion abstraite comme ça dans les textes bibliques. Ça n'existe pas en dehors du mal que font les gens et du mal que subissent les gens. Et mal, ce qui fait mal. Et ce qui fait mal à quelqu'un d'autre, on a beau le déguiser en bien, c'est quand même quelque chose qui blesse l'autre et qui lui fait mal et qui le détruit. Pareil dans l'autre sens. On a beau me dire que ce qu'on me fait, c'est très bien et que c'est pour la bonne cause et tout. Si ça me fait mal, que ça me détruit, que ça me blesse, j'ai le droit d'appeler ça quelque chose de mal qui ne devrait pas exister. J'ai envie de dire, c'est très horizontal. Bien sûr qu'il y a des règles de vie qui sont, il y a beaucoup de règles de vie qui sont conseillées de la part de Dieu au nom de ce Dieu de vie qui veut que les gens, qui souhaite que les gens aient des relations entre eux qui soient viables. Donc il y a des conseils d'amis. Les textes sont pleins de conseils d'amis, mais c'est toujours dans l'idée de faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse à nous et de ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse à nous. C'est au fond. C'est incroyablement concret, incarné. Et on va dire, la boussole, c'est toujours quand même de vérifier si, par le dialogue et par l'échange, ce qui justement est très difficile avec ces personnes-là, c'est de vérifier si est-ce que mon comportement te blesse ou est-ce que c'est OK, mon comportement est OK pour toi. Très horizontal, c'est très très concret.
Je vais quand même reposer la question parce que je ne peux pas passer à côté d'une théologie en parlant du mal.
Oui.
Lita Basset, et dans la Bible et dans d'autres traditions, on parle de Satan, on parle de démons, on parle de possession, on parle de choses comme ça. Enfin, on peut aller voir dans toutes les traditions, j'allais dire, du monde et on retrouve cette notion-là. Pour vous, Lita Basset, c'est un mal humain, trop humain, tellement humain, il n'y a pas d'entité extérieure qui serait mal en elle-même. Cet ange déchu, c'est quoi ?
Non, je répète encore que c'est essentiellement ce que les humains se font les uns aux autres. Et ce qui me frappe énormément, c'est quand Jésus, sur la croix, dans l'évangile de Luc, une de ses dernières paroles, c'est « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Justement, c'est très intéressant de voir que le texte, pardonne-leur le mal qu'ils font. Eh bien, il y a des copistes, par la suite, qui ont rajouté, donc on a un certain nombre de manuscrits, mais ils sont minoritaires, mais qui ont rajouté le mal qu'ils font. C'est quand même très intéressant, parce que là, bonjour le comportement pervers, parce que on a crucifié et fait mourir Jésus sous la torture au nom de Dieu, donc au nom du bien avec un B majuscule. Mmh. Et en fait, Jésus, c'était l'occasion rêvée pour stigmatiser ce comportement-là, complètement destructeur. Et Jésus ne le fait pas. Et pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc il y a une sorte de respect des valeurs absolues du bien et du mal avec un grand B, un grand M, où Jésus, en tant qu'être humain, ne se donne pas le droit de dire c'est ceci, c'est cela. Ça ne veut pas dire qu'il soit d'accord avec ce qui se passe là, mais simplement, il sait que c'est destructeur, que ce comportement, il n'a pas arrêté de le dire tout au long de son ministère, il n'a pas arrêté de dire que les comportements que ces gens avaient, enfin ces gens, un certain nombre de gens avaient été de l'ordre de l'hypocrisie, de l'ordre du fait de ce que je dis et pas ce que je fais, et il n'a pas arrêté de dire ces choses-là. Donc il a été très clair là-dessus que c'était destructeur pour le prochain. Mais à ce stade-là, finalement, au dernier moment avant de mourir, il laisse à Dieu, au fond, le jugement dernier. L'origine, un mal qui vienne cosmique, qui viendrait je ne sais pas d'où, ça, Jésus, il n'en dit strictement rien. Nous, on sait, au début de la Genèse, que ça commence par un chaos. Vous avez parlé, monsieur Urny, plusieurs fois du chaos. Au début de la Genèse, on a un tohu-bohu. C'est le premier verset du premier livre de la Genèse, que la terre était tohu et bohu. Donc ça veut dire qu'on est dans l'abîme. C'est même dit l'abîme des eaux, l'abîme et l'esprit de Dieu qui plane à la surface des eaux. Bon, évidemment, c'est tout un langage symbolique pour dire que nous, on entend parler de Dieu qu'à partir du moment où il met de l'ordre dans le chaos. Et avant, on n'en sait rien. Je dis toujours à mes étudiants, on n'a pas de verset zéro, on a un verset un. Donc, ce qu'il y a avant, on ne le sait pas. Mais on commence avec le chaos et le tohu-bohu, et en même temps, dans le même verset, Dieu, le souffle de Dieu plane à la surface de cet abîme, à la surface de ce chaos. Donc, il ne va pas être englouti par ce chaos. Et il vient mettre de l'ordre dans ce chaos, dans le sens de rendre la vie possible.
Maurice Urny et Lita Basset étaient vos invités, Anne Bécher. Demain, nous vous retrouvons avec ces invités. Avec quel thème de discussion ?
Eh bien, Michel, demain, nous allons parler d'amour. Ah. Ça va faire du bien.
C'est lumineux.
Oui, d'amour humain et d'amour divin, parce que précisément, aussi étranger que cela puisse paraître pour nous, le monde de la perversion narcissique est pauvre en affect. Maurice Urny parle même de la haine de l'amour.
Alors rendez-vous pris pour demain. Merci Anne Bécher. Jean-Claude Gailly réalisait cette édition. Vous pouvez la prolonger par un coup de fil à notre rédaction au 021 318 60 70. Suite du programme d'Espace 2, d'un air entendu.
Les 10 désemparés est une rencontre entre un musicien, Christophe Fellet, et un écrivain, Jérôme Mézeau. Sur scène, le percussionniste joue entre les voix des pauvres, des clochards, d'hommes égarés ou cassés. Les 10 Désemparés en tournée suisse romande et le 16 février à 20h au studio Ernest Ansermet de Genève pour une émission en direct sur Espace 2 et en images sur internet sur www.didesemparés.espace2.ch. L'entrée au spectacle est gratuite, réservation au 021 318 18 56.
Espace 2. Il va être 17h. Vous retrouvez Daniel Robella après les informations.